Il est 18h20 sur France Culture. Du grain à moudre, c'est à vous, Hervé Gardette.
Merci Anne Fockenberg. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du grain à moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le gouvernement a dévoilé hier sa stratégie pour le logement. Construire plus, mieux et moins cher, c'est la formule retenue par les ministres en charge du dossier pour résumer cette stratégie, laquelle fait déjà des mécontents. Les organismes HLM à qui il est demandé de baisser les loyers de leurs locataires. Le président de la Fédération des offices publics de l'habitat prévient « Notre capacité d'investissement pour réhabiliter et construire sera considérablement réduite ». C'est sans doute pour ne pas fâcher davantage que le gouvernement a renoncé, en revanche, en tout cas pour l'instant, à assouplir les règles de la loi SRU. Une loi qui oblige les communes de plus de 3500 habitants à accueillir au moins 25% de logements sociaux. Il faut dire que cette loi semble efficace, comme en témoigne le dernier bilan triannuel publié il y a quelques jours. 190 000 logements sociaux construits en France depuis 2014, soit 16 000 de plus que prévu. Reste que cet effort n'est pas équitablement réparti. Certaines communes rechignent toujours à jouer le jeu de la mixité sociale en matière de logement, souvent pour des questions de standing. Une problématique qu'on retrouve également à l'intérieur même des grandes villes, comme par exemple dans le 16e arrondissement à Paris. Alors comment dégentrifier les beaux quartiers ? Ou comment les désembourgeoiser, comme nous l'a suggéré une auditrice sur Twitter. Eh bien, c'est cette question que nous allons aborder ce soir en compagnie de trois invités, à commencer par vous, Monique Pinson-Charlot. Bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la grande richesse. Je ne vais pas vous demander de commenter la disparition de Liliane Bettencourt. On aura l'occasion d'y revenir à 22h, mais on va dire qu'en tout cas, ça fait partie des personnages auxquels vous êtes intéressé
de près, hein,
voilà, tout au long de vos travaux. C'est pour un ouvrage que nous vous avons invité ce soir, enfin pour évidemment aborder la question, mais il se trouve que vous publiez aujourd'hui en compagnie de Michel Pinson et d'Étienne Lécroard, Panique dans le 16e, c'est publié aux éditions La Ville Brûle et c'est un livre, une enquête sociologique dessinée qui revient sur le projet de centre d'hébergement pour sans-abri qui avait causé, on va dire, beaucoup de remous au printemps 2016, ça se passait dans le 16e arrondissement à Paris. Pour discuter avec vous, Stéphane Dauphin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de Paris Habitat, qui est le premier bailleur social de la ville de Paris. Vous étiez auparavant directeur général de Nantes Métropole Habitat et vous avez encore auparavant eu une carrière d'urbaniste. Et puis notre troisième invitée se trouve au téléphone, elle est à Bordeaux. Il s'agit d'Alexandra Siari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, vous y êtes en charge de la cohésion sociale et territoriale. Ça n'est pas une première pour vous dans cette émission du grain à moudre, puisqu'on vous avait invité justement fin mars 2016 pour une émission qu'on avait intitulée SDF, migrants toxicaux, des voisins indésirables. Et on réagissait justement à ce fameux projet de centre d'hébergement dans le 16e arrondissement à Paris. En tout cas, ça avait été nos point de départ. Et comme je le disais, c'était un débat qui avait été extrêmement houleux.
Et Madame Hidalgo paiera très cher, car le bois de Boulogne, nous, pour Parisiens, c'est comme Central Park, c'est-à-dire un endroit où les Parisiens ont droit de venir se promener, un endroit qui n'est pas le lieu où l'on se décharge des problèmes qu'on ne peut pas régler à Paris, car visiblement, la mairie de Paris considère le bois de Boulogne comme le dépotoir qu'elle ne peut pas mettre ailleurs. C'est ça le combat.
C'est pas l'endroit où il fallait les mettre, à tout point de vue d'ailleurs. Mais comme l'a dit monsieur le maire, là, monsieur Guesguen, il y avait des tas d'endroits, je crois, en périphérie, en Île-de-France, et qu'on va mettre en plein Paris des personnes qui seront perdues. Hein, parce qu'honnêtement, dans le 16e arrondissement, ils seront totalement perdus.
Ce sont des personnes qui ne seront pas intégrées, qui sont...
Voilà un extrait d'un reportage des Pieds sur Terre, émission de France Culture. Un reportage signé Rémi Doua, qui avait été réalisé le 8 février 2016. C'est-à-dire c'était une des toutes premières réunions sur ce sujet de centre d'hébergement pour sans-abri à la mairie du 16e. La réunion publique qui ensuite avait fait beaucoup parler dans les médias et à laquelle vous aviez assisté, Monique Pinson-Charlot, elle avait eu quelques jours plus tard dans les locaux de l'Université de Paris Dauphine. Vous démarrez justement votre livre sur cette réunion publique. Est-ce que vous avez été surprise, disons, par la réaction de la population du 16e arrondissement qui ne voulait surtout pas de ce centre d'hébergement, ou bien est-ce que vous vous y attendiez un petit peu ?
C'est-à-dire que j'avais eu des échos par la presse des réunions précédentes, mais à vrai dire, je ne pouvais pas le croire. Donc je me suis dit, il faut aller voir sur place ce qui va se passer.
Parce qu'il y a eu des propos quand même très violents, hein, voilà. À l'égard de, notamment de la préfète qui était venue présenter
le projet. Ça s'est passé pendant que j'y étais, et ce jour-là, donc quand on arrive, il y a 1500 personnes des beaux quartiers, parce que j'en connais beaucoup, donc c'est pas vrai, il y en a souvent qui ont dit que c'était des marionnettes, mais pas du tout. Ils étaient bien là, très mobilisés, avec leurs affiches. Ils s'étaient bien préparés. C'est-à-dire, il y avait des tracts, des affiches, des slogans, des mots d'ordre, beaucoup, beaucoup d'agressivité, beaucoup de police. Mais je ne savais pas pourquoi la police était là. C'était pour protéger qui ? Et puis, seulement 700 personnes, dont moi, heureusement que j'étais arrivée en avance, ont pu pénétrer dans l'université et s'installer confortablement dans l'amphithéâtre, parce que les 700 autres sont restés dehors. Et ça s'est mal passé, il y a eu des violences vis-à-vis des agents de sécurité et tout ça. Et à l'intérieur de l'amphithéâtre, ça a été d'une violence verbale, d'une violence même sonore, parce qu'ils tapaient sur les pupitres comme des gosses.
Est-ce que vous diriez, Monique Pinson-Charlot, que ça s'est passé de cette manière, à votre avis, parce que ça s'est passé spécifiquement dans le 16e, ou bien ça aurait pu se passer d'une manière identique dans d'autres quartiers extrêmement bourgeois, soit de la capitale, soit d'une ville de province ?
Oh ben oui, je pense. Pourquoi c'est une classe sociale qui est assez solidaire, qui est assez homogène. Et donc non, la réaction. Pourquoi je dis que j'ai vraiment été surprise par le niveau de violence, c'est parce que avec nous ils étaient toujours extrêmement polis et courtois, et que je pense que c'est parce que la violence des riches monte en puissance. Et notamment au niveau verbal, et le président de la République d'aujourd'hui ne fait pas défaut par rapport à cela.
Alors je vous ai posé cette question d'une spécificité peut-être de la réaction du 16e arrondissement. Stéphane Dauphin, vous êtes directeur général de Paris Habitat depuis combien de temps ?
Depuis une petite année maintenant.
Ce qui vous donne quand même un peu de recul pour juger et jauger ce que peuvent être justement les réactions en fonction aussi des arrondissements. Est-ce que, j'imagine que cette affaire vous en aviez entendu parler même quand vous étiez à Nantes. Est-ce que de ce que vous pouvez voir aujourd'hui, vous diriez que dans d'autres arrondissements assez huppés de la capitale, on pense par exemple au 8e arrondissement, au 7e arrondissement, ça pourrait se passer de la même manière, ou bien est-ce que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité peut-être du maire, enfin de l'ancien maire d'ailleurs, je devrais dire pour le 16e, puisque Claude Goasguen, du fait de la règle du non-cumul des mandats,
est plus maire,
et député, il n'est plus maire.
Moi, j'ai plutôt l'impression que, pour le coup, la situation dans le 16e, elle atteint un paroxysme assez rare. Aujourd'hui, en tout cas, on l'a pas retrouvé sur d'autres projets, à ce niveau de projet, même si là, c'était pas un projet de Paris Habitat. Après, je crois que, quel que soit l'endroit où on est, il n'y a jamais de projet de logement social simple. C'est toujours à la fois parce qu'on est dans des process de concertation aujourd'hui, ce qui est normal au regard des attentes des habitants, mais il y a toujours c'est aussi des projets qui véhiculent quelquefois des fantasmes sur la population, sur la façon dont les logements sont gérés, et sur certains secteurs encore plus que d'autres. Donc ça nécessite un peu plus d'explications, d'accompagnement, mais c'est vrai que sur certains sites, c'est souvent des moments où on va un peu reculons, où les équipes sont un peu plus tendues que d'habitude. Après, il y a d'autres sites. Je vois dans le 8e arrondissement, on a un projet. Les relations avec la maire se passent plutôt très correctement. En plus, je pense que c'est un projet qui a du sens pour le public auquel il est destiné.
Juste un mot, c'est quoi ce projet ?
C'est un projet qui nous permettrait de loger des jeunes travailleurs, notamment qui travaillent dans toute l'hôtellerie de luxe dans le quartier et qui, comme vous le pensez, habitent très loin de l'arrondissement. Donc c'est un projet qui n'est pas encore définitif, mais sur lequel on travaille aujourd'hui.
Donc ce qui permettrait à ce personnel d'habiter à proximité de leur lieu de travail,
en l'occurrence. Ce qui est important.
Voilà, l'hôtellerie de luxe. Vous disiez, Stéphane Dauphin, de toute manière, des projets de logements sociaux dans un quartier, peut-être a fortiori dans un quartier, alors je ne sais pas comment il faut dire, riche, bourgeois, huppé, ça n'est jamais simple. Est-ce que vous partageriez ce constat, Alexandra Siari ? Est-ce que, par exemple, alors, ma connaissance de la ville de Bordeaux remonte à il y a quelques années, mais en tout cas à l'époque où je fréquentais un petit peu cette ville, il y avait notamment le quartier des Chartrons, qui était vraiment connu comme le quartier très, très bourgeois de la ville. Est-ce qu'y faire du logement social ? Est-ce qu'il y a implanté un centre d'hébergement pour sans-abri, c'est quelque chose qui, a priori, serait plus compliqué qu'ailleurs ?
Je ne crois pas, honnêtement. En tout cas, ce n'est pas l'expérience qu'on a à Bordeaux. Accueillir des gens extrêmement vulnérables est toujours compliqué, quel que soit le quartier. Et moi, j'ai eu à vivre des moments difficiles dans des quartiers populaires. qui considéraient qu'il n'était pas juste qu'ils aient à accueillir près de chez eux un lieu d'accueil des plus vulnérables, considérant qu'ils avaient déjà suffisamment de difficultés. Je crois qu'il y a une tension plus importante encore quand il s'agit d'un centre d'hébergement que quand il s'agit d'un logement social. Et puis ensuite, je crois qu'il y a trois choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est le nombre de personnes qui vont être accueillies. Plus le nombre est important, plus l'angoisse est importante. La deuxième, c'est la manière que ça a d'être présenté au dernier moment et ou pas, avec quel type de pédagogie. Et la troisième, qui est probablement la plus importante, c'est la détermination politique à installer ces lieux d'accueil et donc la capacité qu'ont les élus toujours et en toute situation et pas seulement dans une situation d'urgence de rappeler que la ville doit intégrer tous les habitants et qu'il n'y a aucune raison que ce genre de structure pose problème. Au contraire même, ça fait partie de la fraternité dans une ville.
Alexandre Assier, et la crainte principale, elle tient à quoi? À une crainte de dévalorisation du quartier, de baisse de la valeur de l'immobilier?
C'est multiple. La première, effectivement, celle liée à la peur de voir son bien être moins attractif. Mais il y a aussi des choses terribles. Hein. La peur de la maladie, la peur de l'agression sur ses enfants, la peur du vol, la peur de la dégradation. Et puis, je crois que ce qui est important aussi de noter, c'est que souvent, les gens qui sont les plus énervés au moment de l'accueil sont aussi ceux qui, plus tard, vont dans ces lieux et apportent des choses et sont dans une logique, au contraire, extraordinairement caritative.
Ben on va justement voir avec Monique Pinson-Charlot qui est retournée sur les lieux qui avaient poser problème justement dans le 16e arrondissement de Paris, parce qu'il faut quand même rappeler que ce centre d'hébergement, il a fini par ouvrir au mois de novembre. Est-ce que vous avez constaté justement cet apaisement dans le quartier? C'est ce que vous écrivez dans votre livre, tout en mettant en doute la réalité de cet apaisement.
Absolument. C'est-à-dire que je pense que suite à aux violences verbales et physiques, parce qu'il y a quand même eu deux tentatives d'incendie, le tout s'est calmé, mais je dirais à quel prix? À quel prix? C'est-à-dire que les travailleurs sociaux de l'association Aurore sont présents 24 heures sur 24. Et ce que j'ai pu constater par les multiples observations que j'ai faites sur place, c'est que les sans-abri ne sortaient jamais. Et quand ils allaient faire des courses, ils ne passaient jamais devant les maisons, mais enfin sur le côté, dans des cheminements peut-être imposés, peut-être pas. En tout cas, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les enfants ne jouaient jamais au ballon à l'extérieur du centre d'hébergement.
Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'installer des gens plus modestes dans un quartier riche pour qu'il y ait une véritable mixité sociale. C'est-à-dire quoi? Vous n'y croyez pas vraiment à la mixité sociale harmonieuse?
Oui, ce que je veux dire, c'est que si les grands bourgeois se sont calmés, d'abord c'est parce qu'il fallait absolument qu'ils fassent de nécessité vertu, et puis que les sans-abri de ce centre d'hébergement ont été bien tenus. Hein, dès qu'il y avait quelqu'un qui criait un peu plus fort que les autres, tout de suite il y avait un travailleur, quelqu'un qui venait et qui calmait la personne. Voilà, donc ça c'est très important. Et si les grands bourgeois se sont mis en colère comme ça, c'est surtout dans le 16e arrondissement à cause du Bois de Boulogne. Ça c'est très important parce que le Bois de Boulogne, c'est leur parc. Et y mettre un centre d'hébergement pour 200 sans-abri, c'était au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer.
Alors Stéphane Dauphin, vous nous disiez tout à l'heure, vous ne vous occupez pas d'hébergement d'urgence.
On s'en occupe indirectement parce qu'il nous arrive notamment, on a des opérations avec des immeubles de bureaux par exemple qu'on va transformer en logement, et le temps de monter l'opération, il nous arrive, j'ai en mémoire une opération notamment qu'on a eue jusque ces derniers mois dans le 9e arrondissement, d'accueillir aussi de manière temporaire des SDF et des populations sans logement, des familles qui sont là aussi, parce que je pense que c'est une condition indispensable de réussite, qui sont fortement accompagnées par le tissu associatif, mais il nous arrive de le faire également.
On va dire quand même que le cœur de votre métier, c'est le logement, c'est le logement social. Je reviens sur cette initiative que vous évoquiez tout à l'heure, donc dans le 8e arrondissement de Paris.
endroit où il y a énormément donc d'hôtels de luxe, de palaces, en disant bah voilà, on essaie de faire en sorte que le personnel de ces établissements-là puisse loger à proximité de leur lieu de travail. Mais est-ce que ça n'est pas finalement avoir une vision un petit peu idéaliste de ce qu'est la mixité sociale, c'est-à-dire que si je n'ai pas les moyens de vivre dans un quartier qui n'est peut-être pas fait pour les gens modestes, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment aller faire ses courses très facilement dans des supermarchés, c'est-à-dire il faut aussi qu'il y ait tout le reste, vous qui avez été urbaniste.
Effectivement, la ville c'est un tout, mais en plus je pense que cet exemple dans le 8e, il n'est pas le seul, parce que je vois régulièrement passer des fiches de demandeurs de logement que je regarde régulièrement. Il y a aussi, par exemple, beaucoup de personnel de maison dans le 16e arrondissement, de gardiens qui vont partir à la retraite et qui sont attachés à l'arrondissement, qu'ils connaissent, qui y travaillent probablement depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui demandent à un logement, probablement en arrivant proche de la retraite, et qui souhaitent rester dans l'arrondissement. Donc je pense qu'eux, pour le coup, connaissent bien l'arrondissement. Et puis on voit quelquefois, sur les demandeurs de logement, c'est quelquefois un peu de manière caricaturale, mais on a aussi très fréquemment des demandeurs de logement qui ciblent exclusivement dans leur demande le 7e, le 6e, le 8e, le 16e arrondissement. C'est quelque chose qu'on connaît chez les bailleurs sociaux. Autant dans ce sens-là, la demande est forte. On le voyait aussi un peu à Nantes, où on vit, en gros, on idéalisait le pavillon dans le centre-ville de manière un peu caricaturale. Là, on retrouve un peu ces réflexes, alors que faire le chemin dans l'autre sens, notamment quand on a des logements sociaux pour les classes moyennes, c'est beaucoup plus dur de faire le chemin dans leur sens vers des quartiers populaires de Paris, par exemple.
Alexandra Chiari, ce sont des quartiers qui attirent, mais il y a quand même cette nécessité que j'évoquais, d'avoir autre chose aussi que du logement pour permettre de la mixité. Il faut aussi des lieux de vie, tout simplement.
Oui, c'est capital. Je voudrais juste revenir quand même sur la notion de beau quartier. Nous, le quartier qui pourrait éventuellement être qualifié de beau, qui est cohérent à Bordeaux, avec des hauts niveaux de revenus, accueille quand même en son sein 10% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et quantitativement autant que le quartier des Aubiers, qui est le quartier le plus fragile. Ça veut dire quand même que les quartiers sont pas totalement homogènes, et il y a quand même toujours des éléments de mixité.
Alors, mais comment elle s'exerce alors, restons justement sur cet exemple cohérent, donc 10% d'habitants en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que vous y voyez justement la preuve d'une mixité sociale? Est-ce que ce sont des gens qui vivent les uns à côté des autres ou qui vivent avec les autres? Parce que quand on parle de mixité, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose.
Ils vivent avec les autres, évidemment. Je n'ai parlé que de ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, puisqu'il y a aussi des gens qui, sans vivre en dessous du seuil de pauvreté, sont dans des situations économiques qui sont fragiles. L'idée, et pour rebondir sur votre question, c'est à la fois de faire en sorte de contribuer à cette mixité sociale en obligeant qu'il y ait de la production de logements sociaux, notamment dans les quartiers dans lesquels il y en a suffisamment. C'est toute la vertu du taux de 25% de logements sociaux. Mais c'est évidemment de faire tout ce qu'il y a autour des équipements de qualité, des politiques d'équité culturelle, et de veiller à ce que les gens puissent se rencontrer dans l'espace public et dans des équipements et dans des politiques publiques, évidemment au sein de l'école, pour que chacun puisse trouver sa place. La notion de mixité, elle est simple, mais fondamentale. Ça consiste à ce que n'importe qui dans une ville puisse se sentir autorisé d'aller n'importe où, pour y vivre ou pour y passer du moment, passer des moments.
Monique Vincent-Charlot.
Oui, alors moi, cette notion de mixité sociale, moi, je l'emploie jamais, mais parce que je suis trop sociologue des rapports de domination, d'exploitation, des rapports de classe, pour ne pas comprendre que quand 10% de personnes de codérants vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils ne peuvent pas, par définition, avoir accès aux mêmes équipements que les plus riches de ce quartier. Dans le 16e arrondissement, les pauvres, les gardiennes d'immeubles, d'abord, ce qu'il y a d'extraordinaire par rapport au centre d'hébergement, c'est qu'il n'y avait pas meilleure défenseuse des intérêts des grands bourgeois que toutes les gardiennes du quartier, qui étaient complètement contre ce centre d'hébergement, avec une agressivité, une vivacité totalement étonnante. Et ces gens-là, qui sont au service des puissants, c'est pas du tout de la mixité sociale. Ils rasent les murs, ils n'ont pas du tout accès aux mêmes services, ils ne participent pas du tout à la sociabilité mondaine, à tout ce qui se passe dans ces beaux quartiers. Et j'insiste bien sur le label beau quartier.
Alexandra Siri, vous n'êtes pas d'accord?
Disons que d'abord c'est tout le travail de la tarification, c'est comment justement une mairie veille à ce que des publics qui ont des revenus plus faibles puissent précisément accéder à tous les équipements comme les autres. C'est ce qui se passe pour la tarification des cantines, pour les piscines, pour les maisons de quartier, pour les centres d'animation. Donc si le politique le veut bien, il peut corriger ces éléments de différence de revenus. Voilà, donc et après le terme de mixité sociale, bah, c'est un terme qui est peut-être malheureux, mais qui est en tout cas celui qui s'entend et qui s'écrit dans la loi et qui permet des obligations. Et la dernière loi égalité et citoyenneté oblige notamment concernant les attributions de logements sociaux de faire en sorte de consolider cet effort de mixité sociale.
Cet effort de mixité sociale, c'est ce qui doit guider de toute manière toute politique, même au-delà de la politique du logement, toute politique d'urbanisme pour vous, Stéphane Dauphin.
C'est important, mais je pense que, pareil, le terme mixité sociale, il reflète beaucoup de diversité suivant les sites. Enfin, la mixité sociale telle qu'on l'entend dans les 16e arrondissement, c'est pas la même telle qu'on l'entend dans un quartier populaire. Et les équilibres, nous, qu'on essaye de maintenir entre des personnes âgées, des familles, des étudiants, des chômeurs, des fonctionnaires, des employés. Donc nous aussi, on l'approche au sens de l'immeuble pour que cette diversité d'usage, de vie, elle soit aussi différente. Mais elle reste malgré tout compliqué à faire vivre au quotidien.
Et comment vous faites à l'échelle d'un immeuble, par exemple, pour qu'il y ait de la mixité sociale ? Alors, il y a cette idée que autrefois les gens se mélangeaient. Il y avait les plus riches qui étaient alors plutôt dans les étages du dessous, et puis les plus modestes dans les étages.
C'était pas dans les HLM. En
voilà.
Tout cas.
Je sais pas si cette période, cet âge d'or a véritablement existé ou si on le fantasme un petit peu. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait dans un même immeuble ? Par exemple, prenons un immeuble que vous construisez.
Mais aujourd'hui,
en tant que bailleur social, logement
aujourd'hui,
social.
On fait plus comme auparavant. Auparavant, souvent, on construisait un immeuble avec un type de logements sociaux dedans. Aujourd'hui, on construit un immeuble, on met du logement très social, du logement social et du logement dit PLS. Voilà.
PLS,
on
essaye, ce qui veut dire
prêt locatif social, mais c'est pour les catégories qui sont les plus proches des plafonds. Donc, on a des différences de revenus qui peuvent aller de 1 à 2,5 entre les différentes catégories. Mais ça reste des logements accessibles et très en deçà, notamment à Paris, des prix du marché. En tout cas, on a cette attention au quotidien, et puis on l'a aussi lors de renouvellement, dans ce qu'on appelle nous, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais dans les stratégies de peuplement, quand il y a des départs, on essaye de veiller quand c'est possible à un certain nombre d'équilibres.
Vous ne vous heurtez pas à des résistances, c'est-à-dire que par exemple ceux qui ont des meilleurs revenus par rapport à ceux qui en ont des plus bas ne se disent pas pour quelle raison moi est-ce que je devrais être hébergé, logé dans le même type de logement que des gens qui n'ont pas, finalement, qui n'appartiennent pas tout à fait à mon monde. Est-ce que ça existe quand même? Cette indifférenciation qui peut aussi poser problème, parce que le logement, c'est aussi un signe de distinction sociale.
Tout à fait. L'incompréhension, d'ailleurs, on l'a plutôt à l'échelle de l'immeuble quand on mixe ces différents types de financement sur des locataires qui ne comprennent pas qu'ayant exactement le même appartement, la même typologie, la même surface, ils ne payent pas le même loyer. Ça, c'est une vraie difficulté d'explication pour nous. On le rencontre aussi sur d'autres types de sujets. Je me rappelle l'expérience à Nantes, où bailleurs sociaux, on achète aujourd'hui de plus en plus de logements à des promoteurs. On achète des logements en VEFA. Et on se retrouvait là, un vrai choc des cultures, où sur le même palier, vous aviez l'avocat qui avait acheté son appartement à 6 000 euros du mètre carré, et à la porte en face, le locataire du parc social qui gagnait quelquefois 1 300, 1 400 euros par mois, et qui est donc locataire avec un loyer très modeste. Là, on avait quelquefois des vrais conflits d'usage, de vie quotidienne, parce que malgré tout, on n'a pas les mêmes codes, on n'appartient pas au même monde, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, le même mode de vie. Donc, je ne sais pas si c'est un modèle à poursuivre, en tout cas, quelquefois, on veille plutôt aujourd'hui à raisonner cage d'escalier par cage d'escalier. Ça reste aussi plus simple en gestion.
Monique Pinson-Charlot, dans votre livre « Panique dans le 16e », vous écrivez notamment ceci. « L'entre-soi des beaux quartiers participe à la construction collective d'un sentiment d'impunité de classe qui ne doit connaître ni doute ni culpabilité face aux conséquences dramatiques de choix économiques et financiers. Est-ce que ça veut dire que dans votre esprit, alors je vais quand même reprendre ce terme de mixité sociale, même s'il ne vous convient pas, s'il vous convient pas tout à fait, mais est-ce que ça veut dire qu'en tout cas, il est nécessaire qu'il y ait davantage de mélange social, notamment entre des gens qui ont des hauts revenus et puis des gens qui ont des revenus plus modestes, pour que ceux qui ont les hauts revenus et qui sont peut-être ceux qui sont aux commandes des décisions politiques et économiques prennent conscience de l'impact de leurs décisions. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez cette question ?
Non, parce que je suis une sociologue dont les travaux sont très désenchanteurs, donc je ne me fais aucune illusion. Ils ont toutes les capacités pour contourner tous les problèmes qu'ils ont à aborder. Si on leur met un centre d'hébergement pour sans-abri pour lequel ils ne peuvent rien, ben ils se disent, après tout, moi j'ai l'éternité pour moi de génération en génération, j'ai le temps. Là, les sans-abri, ils ne peuvent rester que 3 mois.
Les sans-abri. Le logement social, c'est un peu différent quand
non,
même.
Non, c'est pareil. C'est la même logique. La même logique, le temps éphémère court et provisoire pour les autres et le temps long pour les grands bourgeois. Alors les grands bourgeois, eux, c'est très important qu'ils restent entre eux dans des territoires basés sur le communautarisme de naissance, parce que si vous voulez, pour eux c'est très important d'objectiver les rapports de classe dans des territoires. Alors, les territoires, que ce soit les beaux quartiers d'un côté ou les grandes cités défavorisées de banlieue, les ghettos défavorisés, les zones sensibles, comme on appelle ces quartiers-là, ça a un avantage extraordinaire, c'est que ça masque complètement les rapports de classe au cœur de l'antagonisme entre le capital et le travail. La classe ouvrière devient un problème de territoire. La grande bourgeoisie est aussi un problème de territoire. Et donc, il faut tout le temps se sortir de ce problème de territoire pour revenir au cœur des problèmes, pour comprendre comment, après, on s'approprie les territoires, comment on les brandit sous forme de drapeaux, les beaux quartiers ou les zones sensibles, avec toute cette nouvelle langue qui existe pour parler de ces cités défavorisées, un langage de l'expertise absolument étonnante, avec cette politique de la ville qui a échoué, et elle a échoué pour des raisons très précises qui sont pas décortiquées dans ce livre, mais dans la violence des riches.
Et qui est un de vos précédents ouvrages.
Voilà. Et donc, très important de comprendre que dans la société néolibérale dans laquelle on est, il faut tout le temps masquer le rapport antagonique entre le capital et le travail. Et bien sûr, quand je dis le capital, c'est les créanciers, les actionnaires, tous les gens des beaux quartiers qui possèdent tous les titres des valeurs mobilières qui désormais, grâce au nouveau président de la République, ne feront plus partie de l'assiette d'assujettissement pour l'ISF.
Voilà, deuxième petit tacle en direction des Emmanuel Macron. Alexandra Seridou, vous qui êtes, je le rappelle, adjointe au maire de Bordeaux, en charge de la cohésion sociale et territoriale, est-ce que ce prisme, on va dire cette grille de lecture qui est celle de la lutte des classes, vous l'avez à l'esprit dans le travail que vous faites, notamment en matière justement de logement social, de mixité sociale ?
Oui, je l'ai un peu à l'esprit parce que il faut pas être naïf et il y a en effet pas mal de gens et des gens qui décident. Qui n'ont pas envie de cette mixité et qui sont bien contents que dans les quartiers y ait les plus pauvres et dans d'autres quartiers les plus riches. Après, tout le monde n'est pas, tous les décideurs ne sont pas dans cette logique-là, heureusement. Et donc, nous, à Bordeaux, en tout cas, on a des obligations qui sont très très claires, qui sont que dès qu'on a plus de 2500 mètres carrés, il faut qu'il y ait 35% de logements sociaux. Et dans tous nos quartiers qui sont sensibles, même si ce sont des petites unités, on a un travail vertigineux pour essayer d'arriver à faire venir des publics qui ont des revenus plus importants. C'est un travail extrêmement long, tout le monde ne va pas dans le même sens, mais si on le veut, on peut corriger ces organisations spatiales discriminantes.
C'est-à-dire, vous diriez, Alexandra Seridou, que c'est plus facile, alors je vais caricaturer à l'extrême, pardonnez-moi, mais de faire venir des pauvres dans des quartiers riches, c'est plus facile ça que de faire venir des riches dans des quartiers pauvres ?
Décidément, je n'aime vraiment pas l'expression riche et pauvre.
Oui, mais enfin bon, il y a des gens qui sont riches et il y en a qui sont pauvres.
Oui, non,
mais
oui,
on est d'accord que c'est
d'accord, mais
il y a tous ceux qui sont au milieu, hein, mais bon.
C'est très difficile, dans un sens comme dans l'autre, de modifier des lignes quand elles sont très Très profonde, voilà. Donc, quand on a un quartier avec des gens pauvres, il est effectivement difficile de faire venir des gens qui ont des niveaux de revenus importants. Mais l'inverse est exact. Donc, c'est un travail au long cours et qui ne peut absolument pas se résumer à la question du logement. Ça se joue aussi beaucoup dans nos politiques culturelles, dans les équipements qu'on met en place et, parce qu'on en a très peu parlé, sur tout ce qui se passe avec l'école. Voilà. Je crois que c'est très important de favoriser ce lien et cette rencontre et dans la manière qu'ont les élus, en tout cas locaux, d'exprimer cette nécessité que tout le monde doit vivre ensemble, eh bien cette parole politique, elle est indispensable. Et là où je suis peut-être d'accord avec madame, c'est que aujourd'hui, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron et ne va vraiment pas dans ce sens-là, et au contraire même, puisqu'on va paupériser encore plus les quartiers fragiles en ne leur permettant à la fois plus d'être accompagnés, mais en plus de rester entre eux.
Bon alors Stéphane Dauphin, je ne sais pas quel est le niveau du devoir de réserve du directeur général de Paris Habitat par rapport à la politique qui est suivie. Je ne vais pas vous demander de ce que vous pensez de la politique d'Emmanuel Macron, sauf si vous avez
exprimé
envie
beaucoup
d'en
dans
dire
les médias
sur la
gestion
de cette politique du logement.
Voilà, enfin, pas sur la stratégie logement d'ailleurs, sur la stratégie Bercy. Et parce qu'on ce qu'on regrette profondément, et je crois que le monde du logement social est unanime, c'est que la seule chose qui dicte aujourd'hui les choix qui sont en train d'être posés, c'est une logique financière, d'économie pour l'État, et qui aura des conséquences non pas sur le pouvoir d'achat des locataires, mais sur leur vie quotidienne, c'est-à-dire sur leur environnement, sur la capacité à rénover leur logement, à l'entretenir, qui aura des impacts aussi pour les demandeurs de logement, parce que cela va amoindrir nos capacités à développer du parc, et puis aussi un impact sur toute la chaîne du logement.
Un impact aussi donc sur les bailleurs sociaux, et peut-être une remise en cause de certains projets, et de projets justement de logements sociaux dans des quartiers qui en manquent.
Forcément, à un moment, quand il y aura des projets remis en cause, et cela va être une évidence au regard des chiffres qui sont annoncés, il faudra faire des choix. Donc les conseils d'administration, les offices feront des choix, les élus feront des choix, et puis on verra vers où on priorisera nos investissements. Mais ils seront a priori réduits, suivant les offices, les bailleurs, entre 50 et 80%. Donc c'est une révolution qui s'amène devant nous, un bouleversement total de ce qu'est aujourd'hui le monde du logement social et ses acteurs et leur capacité à faire.
Vous voulez parler d'une régression?
En tout cas, c'est pas une progression. Oui, effectivement.
Vous avez dit révolution, donc pour moi, c'est un joli mot.
Mais une révolution, mais qui va pas dans le bon sens.
Sur ce que disait Alexandre Assiari, Stéphane Dauphin, sur l'importance aussi de l'école, c'est-à-dire quand on veut faire du social, du logement social, de la mixité sociale, il faut pas faire que des logements, il faut aussi peut-être construire des écoles, ou en tout cas, penser la question de l'école aussi comme une question centrale.
C'est une vraie question, et je me rappelle à Nantes, elle nous occupait profondément dans les relations avec la ville, parce que on logeait, par exemple, plus de quasiment un quart des enfants de la ville. On avait un sixième des habitants, mais un quart des enfants de 0 à 18 ans de la ville. Donc le peuplement de nos immeubles, la typologie, avait des impacts très importants sur la vie quotidienne, sur la capacité des équipements autour. Donc c'est une évidence. Après, quand on implante des logements sociaux dans les quartiers où il y en a beaucoup moins, on sait qu'on arrive aussi, et là c'est un problème qui touche la France, qui touche Paris, aussi des questions de cartes scolaires, d'évitement de cartes scolaires qui jouent beaucoup. Après, je pense que dans les quartiers, au-delà de la mixité sociale, ce qui est important dans les grands quartiers d'habitat social, c'est aussi la mixité fonctionnelle, notamment, c'était le cas à Nantes, de que l'ensemble des quartiers en politique de la ville soient reliés, par exemple, en tramway avec le reste de la ville, la capacité à intégrer dans ces quartiers aussi des sièges d'entreprise, et c'est très difficile. Moi-même, j'avais réussi à Nantes à implanter le siège du bailleur au cœur d'un quartier symbole de la politique de la ville, parce que la diversité, elle passe par la diversité sociale, mais aussi par la diversité des fonctions, et puis ça amène de la vie au quotidien, ça amène de la vie dans la journée, ça fait aussi marcher le commerce, et c'est important pour que la vie d'un quartier prenne.
Ça ressemble à quoi la vie du 16e arrondissement que vous avez sillonné quand même assez longuement, Monique Pinson-Charlot, pour faire votre enquête? Est-ce que c'est très très loin de cette ville idéale ou de ces quartiers idéaux que vient de nous décrire Stéphane Dauphin?
Ben oui, parce que si vous voulez, moi j'ai travaillé sur la villa Montmorency. Bon, ben c'est le seul ghetto totalement fermé 24 heures sur 24 qui existe en France, hein, fermé complètement. C'est un ghetto doré, c'est un ghetto choisi.
Il a Montmorency, alors c'est
juste à côté du centre d'hébergement pour sans-abri, c'est tout près. C'est là où habite Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni. Et le matin, Nicolas Sarkozy passe devant le centre d'hébergement pour sans-abri, je l'y ai vu, et pour son jogging matinal. Et donc,
il a le droit de faire du jogging.
Ah, mais... et juste à côté, donc, la mairie de Paris a installé 176 logements sociaux. Mais ce sont des mondes qui ne se côtoient pas. Ce sont des mondes qui sont fermés. Je veux dire, là, c'est le concept qu'on n'a pas du tout abordé au cours de cette émission et qui, pour moi, sociologue, est central. C'est bien sûr la violence de classe, mais c'est aussi la violence symbolique. C'est-à-dire que toutes les richesses qu'accumulent les plus riches, la richesse économique, la richesse culturelle, la richesse sociale, se transforme en une violence, une richesse symbolique qui en impose. C'est-à-dire qu'on est mal à l'aise, on se sent pas bien, ils ont des corps de classe, ils ont des vêtements que nous on n'a pas.
Mais c'était justement le sens de ma question, est-ce qu'il faut véritablement toujours vouloir justement amener un peu de la mixité sociale dans des environnements qui de toute manière sont extrêmement marqués justement.
Oui, alors dans le temps que le système capitaliste régira notre société et notre économie, moi je pense pas que ce soit une bonne chose que de faire cette mixité sociale, en tout cas les pauvres chez les riches, parce que les riches chez les pauvres, ça n'existe pas, je peux vous l'assurer. On a fait les statistiques de toutes les adresses des membres des grands cercles parisiens. Alors en plus c'est extraordinaire parce que
ça dépend ce qu'on met chez les riches, parce que la gentrification justement d'un certain nombre de quartiers, alors je pense toujours à Paris, l'Est de Paris,
oui, vous pensez au Bobo, voilà.
Ou Montreuil, c'est-à-dire ouais. On est aussi quand même dans un phénomène où les quartiers, enfin l'accès au logement devient un peu plus compliqué parce qu'il y a toute une population un peu plus aisée.
Alors c'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire c'est pas les mêmes riches et ils s'approprient pas du tout le même espace. Il faut savoir que les beaux quartiers, ils sont créés ex nihilo par et pour des grands bourgeois. Donc c'est des grandes avenues, c'est des architectures spéciales, des grands trottoirs. Tandis que la boboïsation, la gentrification, il faut être très précis sur les mots, c'est au contraire l'appropriation par des salariés qui gagnent bien leur vie, qui sont dans les nouveaux secteurs de l'activité économique et sociale, et qui s'approprient l'habitat ouvrier, les ouvriers étant éjectés en lointaine banlieue.
Stéphane Dauphin, ces beaux quartiers d'ailleurs, avec des beaux immeubles, sont pas non plus des quartiers qui doivent être très faciles justement à transformer avec du logement social, ne serait-ce parce que il faut mobiliser du foncier, puis il y a aussi des contraintes architecturales.
Il y a des questions de coût. Je pense que la transformation, elle prendra des siècles pour arriver à ce qu'on connaît dans l'Est parisien, en termes de pourcentage de logements sociaux. Après, je pense que le rééquilibrage sur Paris, il est nécessaire, il a du sens. Je rappelle qu'il y a une loi aussi qui impose 25% de logements sociaux sur les territoires. Donc on a la ville de Paris, la maire de Paris a aussi décidé de considérer ces équilibres à l'échelle des arrondissements. Donc voilà, on porte des projets. C'est jamais facile, mais c'est notre labeur quotidien.
Alexandre Assiari, pour conclure en une minute, Bordeaux aujourd'hui, semble-t-il, est impacté par cette évolution du TGV. On faisait une émission hier sur la SNCF. On peut aller à Bordeaux depuis Paris en 2 heures ou inversement. D'ailleurs, est-ce que cette arrivée dont on dit qu'elle est importante de Parisiens qui viennent s'installer à Bordeaux, c'est quelque chose qui, si ce n'est inquiète, en tout cas qui interpelle l'élu que vous êtes du point de vue justement de la mixité sociale?
Oui, on est très heureux d'être attractif, mais on est très inquiet parce que le marché de l'immobilier s'envole. Donc c'est la raison pour laquelle le projet du gouvernement de peut-être extraire et sortir Bordeaux des zones tendues et donc de percevoir moins d'aide à la pierre est pour nous vraiment un véritable problème. En attendant, ce qui est sûr, c'est que à Bordeaux, on produit plus de logements sociaux aujourd'hui que du logement libre. Et dans tous les nouveaux quartiers, 35% des logements sont des logements sociaux. Donc, on n'est absolument pas dans une hypothèse de nouveaux quartiers qui ne seraient conçus et réalisés que pour des publics riches. On est au contraire très attachés à cette mixité. Et je voulais dire, il y a quelque chose qui a manqué dans cette émission.
Alors dites-le en 3 secondes.
C'est vraiment important, c'est la possibilité qu'on donne à tout le monde aussi de s'exprimer. C'est-à-dire que les pauvres et les riches doivent pouvoir, de la même manière, accéder à leurs élus et accéder à la parole. Et je crois que c'est un gros travail, notamment avec les conseils citoyens un peu partout.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Assiari. Il est quasiment 19h. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci également à Monique Pinson-Charlot et à Stéphane Dauphin. Merci à toute l'équipe du Grain à Moudre. Je ne vais pas les reciter ce soir parce que j'ai plus le temps. Et sinon, je vais me faire taper sur les doigts.
Non, le temps, donner le sujet de demain.
Ah bah, demain, la droite est-elle dans l'opposition?
C'est une bonne question. Je suis sûr que vous y répondrez avec vos camarades de jeu habituels.
Voilà, le club des idées du grain, comme chaque vendredi.